une journée après avoir lancé notre legging, on n'en avait plus. Moi, je pensais que ma famille en porterait pendant 10 ans, mais on n'en avait plus après une journée. Alors, on en a recommandé le double le lendemain.
Mon nom est Antoine Gagné et je vous souhaite la bienvenue au 147e épisode du podcast Hypercroissance. Avant d'écouter l'épisode d'aujourd'hui, je vous invite à vous abonner sur Spotify, Apple Podcasts ou sur votre plateforme de balado préférée afin d'être notifié des nouveaux épisodes qui arrivent tous les lundis et également jeudi matin. Également, j'en profite aujourd'hui pour vous faire une toute nouvelle annonce. Le 3 mai dernier, on a officiellement lancé notre troisième balado hebdomadaire intitulé Commerce Élite. Après Hypercroissance et Social Selling, on a décidé de lancer un nouveau podcast qui sortira à chaque mardi, parlant des tendances à suivre dans le commerce électronique. Des entretiens tactiques et également stratégiques seront aussi au rendez-vous. Donc, si vous possédez un commerce en ligne et que vous désirez le transformer en commerce élite, allez jeter un coup d'œil à notre tout nouveau balado ou encore transférez le podcast à votre chef du département marketing. J'ai la chance, personnellement, d'œuvrer dans le domaine des communications et du marketing. Et force est d'admettre que d'opérer dans ce milieu te fait comprendre énormément de choses sur la commercialisation de toutes sortes de produits. Avoir ce type de bagage est grandement utile si éventuellement on veut lancer d'autres projets. Et ce bagage, mon invité du jour le possède également. Maxime Morin, cofondatrice de l'entreprise Rose Bouddha, est avec nous aujourd'hui pour nous parler de la belle histoire de croissance que son organisation a vécue depuis 2016. À la base, animatrice de radio et également très impliquée dans le monde des communications, Maxime nous explique aujourd'hui les techniques assez fascinantes qui lui ont permis à elle et à sa partenaire d'obtenir un succès immédiat au lancement de leurs produits. Également, l'équipe de Rose Bouddha s'est bâtie un regroupement d'investisseurs de haute qualité dans les dernières années, en ayant d'ailleurs les fondateurs de Frank & No comme partenaires dans l'aventure. On discute donc de tous ces beaux sujets dans le 147e épisode du podcast. Sans plus attendre, ma discussion avec Maxime Morin. Maxime Morin, vous êtes la cofondatrice et présidente de l'entreprise Rose Bouddha, une organisation de leggings et vêtements éco-responsables établie à Montréal. Lancée en 2016, Rose Bouddha peut se targuer d'avoir une croissance retentissante en ayant maintenant atteint le 5 millions de chiffre d'affaires annuel. Maxime Morin, merci beaucoup d'être sur le podcast Hypercroissance aujourd'hui.
Merci de me recevoir, ça fait vraiment plaisir.
Et Maxime, avant de discuter de l'histoire derrière la croissance de ton entreprise, est-ce que c'est possible pour toi d'expliquer un petit peu à notre audience qu'est-ce que Rose Bouddha et quels sont les clients et clientes que vous desservez?
Rose Bouddha, c'est une entreprise de vêtements actifs, éco-responsables et éthiques, du fil jusqu'au produit fini. Alors, on travaille avec autant la bouteille de plastique recyclée pour en faire des leggings, les vêtements plus techniques et le coton biologique, le Tencel, les fibres éco-responsables les plus efficaces et les plus belles et les plus douces sur le marché.
Et si on analyse bien ton parcours, Maxime, on peut voir qu'avant l'entrepreneuriat, tu as œuvré dans les médias. Tu as d'ailleurs été l'animatrice de l'émission de Bande à part à Radio-Canada. Peux-tu partager avec notre audience aujourd'hui comment s'est déroulé le début de ta carrière avant de te lancer finalement à ton compte?
Ça a été vraiment un gros shift. Moi, je travaillais comme animatrice à la radio, oui, à Bande à part, entre autres. J'ai toujours travaillé aussi comme comédienne. J'ai commencé à l'adolescence sur une série jeunesse. Puis, j'ai toujours fait les deux. Mais j'ai aussi toujours eu le désir, le goût d'avoir mon entreprise à moi, d'être entrepreneur. Puis, quand j'ai eu ma fille, c'est un peu classique, là, c'est ça pareil. Quand j'ai eu ma fille, je me suis dit, oh, il me semble que j'aurais besoin de faire autre chose. J'avais plus envie de juste œuvrer dans le domaine des communications. Je trouvais ça un petit peu difficile d'être à la merci des décisions des autres. Mmh. Trop grande, trop petite, trop blonde, trop brune. Aussi, on sait que bon, le domaine de la radio, c'est aussi très instable. T'as une émission, là, ton émission est cancellée. Tout ça, je trouvais, j'avais plus autant de plaisir qu'avant dans cet univers-là. J'avais envie de créer un produit, d'avoir quelque chose de concret. Fait que j'ai pris un cours en lancement d'entreprise. Puis finalement, j'ai décidé de m'ouvrir un studio de yoga avec une amie. On a fait un plan d'affaires. On voulait s'installer à Montréal dans le Milex. Il y avait le nouveau campus de l'université. On avait toutes fait nos petites analyses. Puis on était pas mal prêtes à se lancer. On visitait même des locaux. Puis mon autre amie, Madeleine Arcan, avec qui j'ai fondé Rose Bouddha, revient d'un voyage à Bali. Puis elle me dit, « Hey, pourquoi là, au lieu de lancer ton studio, là, on ferait pas des leggings? J'allais dire leggings. Tu penses qu'il y a pas assez de leggings sur la planète? Là, on s'est mis à jaser. Elle m'a parlé un petit peu de son idée. Je me suis dit, ouais, mais faudrait créer des leggings parfaits selon nous, en fait. Tu sais, complètement en lien avec nos valeurs. Pour nous, tu sais, l'éco-responsabilité, c'était super important. On est des mamans, on était des yoginis aussi. T'sais, moi, je pratiquais beaucoup le yoga. Je l'enseignais aussi un peu à travers tout ça. Donc, tu sais, dans le yoga, il y a quelque chose, il y a Ahimsa. Qui est un des principes du yoga, qui est de ne pas créer de tort, donc de ne pas se faire violence à soi et de faire violence aux autres, donc de ne pas créer de tort à l'autre et à soi. Alors, on est parti un peu de cette philosophie-là en disant, OK, comment on pourrait créer des produits, un legging, sans créer de tort à la planète, aux humains aussi, et à soi-même dans tout ce processus-là. Donc, on a décidé de créer un legging, un seul legging, pour commencer avec des beaux imprimés. On a travaillé avec une amie qui est artiste visuelle, Émilie Beaudoin. Puis, on en a fait 250 paires. Fait que pour moi, c'était un petit projet, un sideline, en fait, à mon studio que je voulais ouvrir. Je me suis dit, bon, ben c'est super, je vais avoir des produits à mettre dans mon studio de yoga, fabriqués chez nous. Tu sais, super complémentaire comme offre. Et finalement, une journée après avoir lancé notre legging, on n'en avait plus. Moi, je pensais que ma famille en porterait pendant 10 ans, mais on n'en avait plus après une journée. Alors, on en a recommandé le double le lendemain. Et après ça, le double encore et le double encore. Puis, on a grandi comme ça. On a fait tout nous-mêmes. On n'est pas allé chercher un prêt de la banque à coup de « As-tu 200 piastres? » Ouais, je pense. Je paye-tu mon électricité ou je mets 200 piastres dans Rose Bouddha? C'est vraiment comme ça que ça a grandi. Puis, c'est ça, ça a grandi très, très, très rapidement là quand même. Là ça va faire 6 ans. Puis, on est parti là de 250 paires de leggings. Puis là, ben on en vend plusieurs par jour. Puis, on vend pas juste des leggings non plus maintenant. Là, c'est toutes sortes de beaux vêtements confortables pour les femmes d'ici.
Mais là, j'aimerais prendre une petite pause ici parce que là, vous achetez 200 leggings,
oui.
Vous les vendez en une journée, oui. Vous doublez, vous les liquidez, je pense, en un mois. Là, faut que tu nous expliques un peu, là. Ça a été quoi la stratégie de communication? T'es une personne qui a œuvré dans le domaine des communications. Oui. Est-ce que tu as utilisé des techniques que tu avais apprises dans cette industrie-là pour les appliquer par la suite à Rose Bouddha? Quelle a été la sauce secrète là, derrière ce lancement aussi qui a eu autant de succès?
En fait, la sauce secrète, je pense que c'est toutes sortes de choses. Question de timing. Tu sais, je pense que les Québécoises étaient prêtes à recevoir ce type de produit-là, avaient le goût d'en acheter. Aussi, il y avait une place à prendre dans le marché, il n'y en avait pas. Et le monde des communications a beaucoup aidé parce qu'on savait comment faire un communiqué de presse. Alors, on a écrit des communiqués de presse. On les a envoyés pour notre lancement. On avait aussi une expertise au niveau de la rédaction, hein, de la rédaction publicitaire. Fait que c'est quoi notre message? C'est quoi notre différence? Fait qu'on a vraiment travaillé là-dessus. Qu'est-ce qu'on veut dire? C'est quoi notre différence? Puis de mettre ça de l'avant. Fait que oui, notre background de communication nous a énormément aidé à passer notre message, à pas se diluer puis à essayer de dire trop de choses non plus, de choisir une seule chose parce qu'on sait que le client peut pas retenir, si tu essaies de lui dire comme, c'est quoi Rose Bouddha? Ben, Rose Bouddha, pour commencer, quand on a lancé, c'était des leggings faits en bouteilles de plastique recyclé faits au Québec. C'est ça, Rose Bouddha. C'était pas, c'est deux mamans pis là, qui ont fait des leggings pis là, ils aiment le yoga. T'sais, c'est quoi ton message? Donc, notre expérience en communication nous a aidé à être concise. On avait, c'est sûr, des contacts dans le monde des médias. Fait qu'on a lancé notre communiqué de presse, puis la presse a parlé de nous et ça a décollé. C'est vraiment comme ça que ça a décollé.
Mais j'adore l'idée. Donc, on a travaillé avec les techniques, les bonnes vieilles techniques de relations publiques. On comprenait comment l'environnement des médias traditionnels, on peut le dire ainsi,
oui, tout à fait.
Fonctionne.
Oui.
Et par la suite, on a été capable de faire nos premières ventes. Parce que c'est vrai que si on remonte à 2016... même aujourd'hui encore, là, mais j'imagine qu'il y a 6 ans de ça, ça devait être un slogan, une approche qui est assez puissante là, de dire qu'avec du plastique recyclé, on est capable de faire des aussi beaux vêtements.
Tout à fait. Il y en avait très peu. Tu sais, il y avait Patagonia qui travaillait avec cette fibre-là. Des grandes marques, mais des marques ici, il y en avait pas. Même qu'on faisait un peu rire de nous quand on allait voir les fournisseurs de tissus là à Montréal. On se disait, ouais, mais ça c'est pas résistant cette affaire-là. C'est quoi cette affaire? Non, prenez ça. Ben oui, c'est écologique. Mais non, ça se peut pas. Ils le font partout ailleurs dans le monde. Il y a des grosses compagnies qui travaillent avec ça. Je peux pas croire qu'ici on n'est pas capable d'avoir du tissu localement fait de façon éco-responsable. Fait qu'on a, il a vraiment fallu qu'on fasse de l'éducation beaucoup au départ, là.
Intéressant. Puis bon, si on regarde un petit peu votre croissance, je vais essayer de bien situer l'audience. Aujourd'hui, on est capable de voir que lors de votre première année d'exercice, vous arrivez à atteindre 150 000 $ de vente. Félicitations. Mm-hmm. C'est assez impressionnant d'atteindre les 6 chiffres après 12 mois seulement. 2 ans plus tard, vous atteignez votre premier million de ventes. Et aujourd'hui, c'est un petit peu plus de 5 ans plus tard, après le lancement, vous avez franchi la barre du 5 millions de chiffre d'affaires annuel, comme j'ai pu le dire en introduction. Maintenant, tu nous as parlé de communiqué de presse, mais là, oui, j'imagine que c'est pas simplement un communiqué de presse qui vous a amené à 5 millions de chiffre d'affaires. Là, il y a dû y avoir une stratégie, des initiatives de commercialisation qui s'en sont suivies par la suite, qui vous ont aidé à atteindre cette croissance-là. Peux-tu nous parler un petit peu du chemin parcouru et ce qui vous a amené à, au final, en 2022, atteindre la croissance que vous avez atteinte?
2 communiqués de presse.
Le podcast termine comme ça.
C'est ça. On a fait 2 communiqués de presse. Non, mais c'est une stratégie mixte, je te dirais. Donc, oui, les médias traditionnels, on les a pas laissés tomber. On a continué à trouver des façons de faire parler de nous, donc avec nos nouveautés, hein, continuer à faire parler de nous dans les médias traditionnels. Une stratégie aussi de publicité là, Facebook, remarketing et une présence en ligne, donc alimenter la communauté, créer une communauté en étant présente sur Facebook, en ralliant nos clientes, en communiquant avec elles. On a vraiment une très, très belle communication avec nos clientes chez Rose Bouddha qui sont comme des amies. Il y en a plusieurs qu'on connaît par leur nom. Elles sont super actives. Elles sont vraiment très généreuses et très engagées auprès de la marque. Fait qu'on a travaillé à créer cette communauté-là, mais en étant le plus authentique possible. Pour nous, l'authenticité était très importante. Donc, ce que vous voyez dans les médias, c'est ce qu'on est aussi dans la réalité. On voulait pas faire de greenwashing. On voulait vraiment rester intègre. Fait que l'intégrité, je pense que ça se sent aussi. Fait que je pense que ça nous a aidé. Ce côté-là intègre et vrai dans ce qu'on avait envie de communiquer, ce qu'on faisait. Une stratégie en ligne, autant de l'organique que du payant. Et les médias traditionnels. Fait que, tu sais, c'est une belle recette là, complète. On croyait pas de tout mettre nos œufs dans le même panier seulement, par exemple, sur Facebook ou juste faire de l'organique. Fait qu'on a vraiment essayé de faire un peu de tout pour se protéger aussi. Parce que si un canal tombe, après, t'es un petit peu coincé là, si toute ta clientèle vient d'une seule place.
Il y a un point qui est assez pertinent, je crois, à partager avec notre audience aujourd'hui. On en parlait, toi et moi, avant le début de l'entretien. Vous avez une application.
Oui.
Vous avez, et sur cette application-là, vous donnez un petit peu des cours de méditation ou quasiment, oui, je pense que c'est des pistes audio qui peuvent aider les gens dans leur méditation. Vous avez embrassé le mouvement, là. Vous avez vraiment embrassé le mouvement dans lequel vous avez, le mouvement que vous avez intégré en 2016. Et je pense que c'est important de mentionner à l'audience aujourd'hui que, au final, quand on vous regarde, Rose Bouddha, en 2022, vous n'êtes pas simplement une entreprise qui vendait des vêtements. Vous avez été capable de prendre le tout et on dirait de bien l'intégrer à votre organisation pour être reconnu.
En fait, oui. Ce qu'on voulait, c'est que au départ, tu sais, quand on a vu qu'il y avait un engouement autour des leggings, pour nous, on s'est dit, on peut pas juste faire des leggings, juste faire des vêtements. Pour nous, c'est plus une façon de voir la vie aussi. Donc, tout le côté éco-responsable, le côté éthique, aussi de faire du bien aux femmes, de leur donner des vêtements dans lesquels elles se sentent bien, mais de les accompagner dans ce bien-être-là de toutes sortes de façons. Fait qu'on part toujours de nos valeurs, puis on essaie de créer autour de ces valeurs-là. Fait que si c'est en accord avec les valeurs, ça, habituellement, ça fait du sens. Donc, d'offrir une application de méditation avec des vêtements qui ont été créés au départ, influencés en fait de la philosophie du yoga, pour nous, ça faisait beaucoup de sens. Fait que oui, on a une application de méditation bilingue faite au Québec avec des voix de chez nous. Et c'est l'application officielle du Cirque du Soleil, entre autres.
Wow.
Et on va continuer à la bonifier, cette application-là, parce qu'on le sait qu'il y a un besoin que les gens, avec tout ce qu'on a vécu dans les dernières années, on s'est fait brasser notre petit bateau, puis on a besoin de se déposer, de respirer, de connecter avec nous-mêmes. Alors, l'application vient accompagner les gens dans la gestion du stress, de l'anxiété, trouver le calme, aider au sommeil. Alors, on continue à diversifier notre offre, mais toujours en gardant notre centre très solide, en accord avec nos valeurs, finalement.
Et je suis curieux, je ne sais pas si ça a été pensé de cette façon-là, mais cette application, à quel point vous êtes capable de dire, là, 4 ans plus tard, parce que je pense que ça fait 4 ans maintenant que l'application a été lancée, à quel point elle a pu avoir un impact direct ou indirect sur la croissance de Rose Bouddha?
Je pense qu'elle a eu un impact, oui, direct, je ne sais pas, je peux pas dire si ça a eu un impact majeur, mais oui, ça a eu un impact sur la croissance de Rose Bouddha. Parce que quand on a créé cette application-là, pour nous aussi, c'était une façon de faire parler de Rose Bouddha. On l'a donné beaucoup, l'application. C'est devenu un peu un objet promotionnel, veux-veux-pas.
Bien sûr.
Alors oui, l'application se retrouve sur ton téléphone. Tu vois l'application Rose Bouddha, si tu... T'es retargeté par une publicité, tu revois Rose Bouddha ou tu vois sur les réseaux sociaux, t'es en contact avec la marque dans différentes sphères de ta vie. Alors, si à un moment donné, tu dis, bon, j'ai besoin d'un coton ouaté, tu vas penser à Rose Bouddha probablement avant une autre marque parce que t'es en contact régulièrement avec la marque. Alors, c'est un peu comme ça qu'on l'a réfléchi. C'est de rester dans... avec nos clientes, avec les gens, de continuer à les accompagner. Mais les clients sont plus intelligents, plus avertis qu'à une certaine époque, au début de la publicité. On peut plus leur dire, voici, je sais pas moi, si on revendait de la peinture Rose Bouddha, la meilleure peinture,
ouais,
il faut
ouais.
être plus subtil dans notre contact avec la marque. Fait que c'était l'idée de créer un brand lifestyle, finalement.
Ben, c'est une pierre deux coups, hein. On
oui.
est capable d'aider le client, bien entendu, dans sa méditation, et on est capable de faire rayonner la marque du même coup. Donc, je vois ça. Je trouve ça excessivement intelligent. Je trouve que c'est une très, très belle stratégie de contenu. Je continue sur un point que tu as mentionné, valeur.
Oui.
On l'a également mentionné un petit peu plus tôt, éco-responsable. Donc, c'est important de le redire à notre audience aujourd'hui, en plus de votre croissance, là, qui se porte très, très bien. Mais vous avez une cause sociale, une cause environnementale. Donc, vous utilisez du plastique recyclé de bouteilles pour la confection de vos leggings. Je crois que c'est 10 bouteilles quasiment par pantalon.
Oui.
Et vous plantez également un arbre par commande faite.
Mm-hmm.
Donc, moi, ma question pour toi serait la suivante, Maxime. À quel point c'est important pour une entreprise en 2022 de bien marier croissance économique et impact écologique?
Je vais dire quelque chose qui est pas très original, mais il n'y a pas de commerce si on n'a plus de planète. Hein?
Ouais.
Alors, avec l'urgence climatique en ce moment, de ne pas penser au volet environnemental en entreprise, selon moi, c'est un peu irresponsable. On se doit, en tant qu'entrepreneur, de penser au volet environnemental. C'est comme si on faisait pas le ménage chez nous, là. C'est notre maison, faut
Bien
en
sûr.
Prendre soin, faut réaliser qu'on a un impact. Puis c'est sûr que oui, Rose Bouddha, on a un impact environnemental. Pour pas avoir d'impact environnemental, faudrait pas porter de linge. Mais là, comment on peut le faire en ayant le plus petit impact environnemental possible? Nous, c'est ce qu'on essaie de faire pour au moins donner une option.
À tous les auditeurs du podcast Hypercroissance, je vous pose une question. Êtes-vous à la recherche des dernières tendances pour votre commerce en ligne? Êtes-vous à la recherche des ressources pour votre chef du département marketing afin de l'aider dans son travail? Si c'est le cas, sachez qu'on croit avoir la bonne réponse pour vous. On a la fierté aujourd'hui de vous présenter notre tout nouveau balado intitulé « Commerce Élite », un podcast qui, à chaque mardi, va présenter des entretiens marketing tactiques avec des acteurs influents du commerce électronique. Dans ces épisodes, on s'assure également de vous mettre à jour sur les nouveautés qui ont impacté l'industrie dans les dernières semaines. Donc après hypercroissance pour les entrepreneurs et social selling pour les acheteurs médias, nous voilà maintenant avec Commerce Elite, un podcast 100% orienté pour les équipes marketing des entreprises qui vendent en ligne. Allez jeter un petit coup d'œil et n'hésitez pas à transférer le podcast à votre équipe interne. De retour à l'épisode en cours.
Mais peu importe l'entreprise qu'on fonde aujourd'hui, pour moi, c'est essentiel. On doit penser à l'environnement. Ça dépasse, tu sais, le greenwashing et tout ça. Tu sais, je pense que ça devrait être la base, là.
Puis, est-ce que ça a été pensé dès le départ ou c'est venu par la suite quand vous avez vendu vos premiers leggings?
C'était dès le départ. En fait, pour moi, c'était sûr, c'était clair. Je préférais rien faire si c'était pas éco-responsable. Ça faisait pas de sens. Surtout que, au départ, c'était un petit projet à côté. Tu sais, on savait pas que Rose Bouddha était pour devenir ce qu'il est aujourd'hui. Alors, pour moi, de faire ce projet-là, si c'était pas 100% en accord avec mes valeurs, ben, je préférais ne pas le faire puis mettre mon énergie ailleurs.
Bien sûr. Oui. Non, ça fait du sens. Ça fait du sens parce qu'à un certain point, on s'en rend compte, une entreprise, ça demande tellement d'efforts, ça demande tellement de résilience à travers le temps que si c'est pas 100% relié à ce que tu crois, mm-hmm. aux valeurs que tu possèdes, à ce que tu as envie de faire, eh bien, ça va être difficile de continuer. Ça va être difficile de continuer parce qu'il n'y aura peut-être pas nécessairement la motivation qui va te donner la petite tape sur l'épaule quand les choses vont être un peu plus compliquées. Donc, je comprends clairement d'où tu viens avec ça. Un autre point qui, je pense, mérite d'être mentionné, bon, vous êtes deux cofondatrices, donc toi et Madeleine.
Oui.
Mais à travers les années, vous avez intégré dans l'actionnariat des entrepreneurs également assez connus.
Oui.
Il y a Dominique Gagnon de Connect & Go qui, je crois, est devenu investisseur et qui vous aide également sur certains aspects de vos opérations.
Oui.
Et il y a les créateurs de Frankenhope qui sont également devenus investisseurs il y a quelques mois de ça maintenant. Je serais curieux de savoir un petit peu comment s'installe la dynamique entre les actionnaires, les administrateurs de l'entreprise. Est-ce que certains d'entre eux sont plus impliqués au quotidien? Est-ce que c'est davantage des investisseurs, entre parenthèses, fantômes? Comment tout ça s'installe?
C'est plus des partenaires que des investisseurs, dans le sens que ils sont là pour aider la compagnie à grandir de façon saine. Si je parle de Hicham et Ethan, les deux fondateurs de la compagnie Frankenhope, ils ont tout vécu avec cette entreprise-là.
Ça c'est vrai.
Oui, puis ils peuvent nous accompagner, nous guider, nous aider à réfléchir, nous challenger, puis ça fait du bien. Moi, j'aime ça me faire challenger, j'aime ça me faire dire peut-être pas une bonne idée. Pour m'aider à pousser ma réflexion un petit peu plus loin. Puis, il nous aide aussi à se structurer parce que Rose Bouddha a grandi quand même très rapidement. Puis, nous, on venait du monde des communications. Fait que, oui, tu sais, j'avais fait un cours en lancement d'entreprise, mais des budgets, là, par mon budget d'épicerie, là, j'avais pas fait de grand budget dans ma vie. Alors, tu sais, tout ça était important. C'est important de structurer, en fait, l'entreprise, de créer des fondations vraiment solides pour l'avenir, pour continuer à l'amener plus loin. Et c'est ce que Hicham, Ethan, Dominique font avec nous, en fait. C'est de nous soutenir puis de nous appuyer dans cette croissance-là, dans cette progression-là. Aussi en pensant des processus intelligents, en nous ramenant à l'essentiel aussi beaucoup. Donc, est-ce que c'est une distraction ou est-ce que c'est essentiel? Parce qu'il y en a plein de distractions possibles.
Ben oui.
On a des opportunités à tous les jours. Alors, comment apprendre à dire non à ce qui n'est pas une réelle opportunité pour le moment? Puis ça ne peut pas dire que si tu dis non aujourd'hui, que l'opportunité ne se représentera pas plus tard. Puis je pense que c'est l'erreur qu'on fait des fois en tant qu'entrepreneur. On voit une opportunité, puis on a toujours l'impression qu'il faut la saisir maintenant. Oh, c'est l'opportunité du siècle! Mais on s'épuise, puis on épuise notre équipe. Fait que c'est d'essayer de protéger cette équipe-là, puis en se concentrant toujours sur la même chose, tu sais, l'expression là, du petit train va loin, c'est vrai. Un petit peu tous les jours, d'être concentré en bout de ligne, finalement, t'as beaucoup plus de résultats que les grands coups d'éclat. Puis aussi, dans les nouveaux actionnaires dans l'entreprise, il y a aussi Lise-Marie Caillé, qui était notre directrice de production, qui est là depuis le tout début. Et Marie-Ève Lemay, qui s'occupe aussi de la production et qui est designer chez nous. Alors, on a des gens de l'interne qui ont joint l'entreprise. Fait qu'on est rendu une super belle grosse famille. C'est vraiment le fun de voir toutes ces belles têtes-là, des gens tellement brillants, généreux. Je me sens vraiment choyée d'être entourée, là, d'être si bien entourée, en fait, dans l'entreprise.
Et j'aimerais revenir un peu à l'impact que les fondateurs de Frank&Oak ont pu avoir sur vos décisions, sur votre vision des choses. Est-ce que tu aurais des anecdotes à nous partager aujourd'hui? Parce que tu le dis, ils ont tout vécu, et c'est vrai, ils ont tout vécu. Les hauts, les bas, ça a été assez tumultueux, quasiment, on pourrait dire, hein, pour l'équipe de Frank&Oak à travers les dernières années. Donc, ils ont clairement des apprentissages qui peuvent être totalement formidables pour quelqu'un qui va œuvrer dans le domaine du textile. As-tu des anecdotes à nous partager aujourd'hui par rapport à cette dynamique de mentor, mentoré ou de conseiller à entrepreneur? Je serais curieux de t'entendre ici.
En fait, je ne sais pas si c'est une anecdote, mais souvent, quand on se parle, moi, j'ai toujours 12 millions d'idées, là. Je suis très créative, j'ai toujours 12 millions d'idées, elles sont toutes bonnes, j'ai envie de faire plein de choses, j'ai toujours l'impression que je peux faire plein de choses. Puis, comme j'ai dit tantôt, est-ce que c'est une distraction, ça? Tu sais, Hicham et Iten, les deux, est-ce que c'est... Tu sais, je pense que c'est une distraction. Ça, je pense que c'est une distraction. Fait que de passer un peu la hache dans ces idées-là, puis nous ramener... Je te dirais que c'est pas un running gag, mais c'est récurrent. Parce que on s'en rend pas compte quand on est dans le day-to-day avec l'équipe. C'est pas juste moi non plus. C'est les autres personnes dans l'équipe. On a le goût de faire plein de choses, mais on oublie que, il faut revenir. Tu sais, revenir à base. Oh, il y a peut-être des bugs sur le site web. Bon, on va régler ça avant, là, de penser, là, à ouvrir notre boutique tout de suite. Fait que, je te dirais qu'il y a ça, qui est récurrent, là, dans leur guidance. Puis, comme je te disais, moi, je viens pas du milieu de la finance, je viens pas du monde des affaires, je me suis débrouillée, j'ai appris sur le tas, mais la première fois que j'ai eu à faire un budget, j'avais chaud, hein, Titi? Un vrai budget, là, comme il faut, là. Pas mon budget que je faisais sur ma napkin. Ouais, c'est ça. Je te dirais que... C'est tous ces conseils-là de revenir à l'essentiel. Puis c'est quoi la marque, là? Je pense que ça s'applique à tout le monde. C'est quoi votre marque? C'est quoi votre compagnie? Puis soyez un maître de quelque chose, puis éparpillez-vous pas. En essayant de croître aussi trop vite. Tu sais, des fois, c'est mieux de prendre un petit pas de recul, puis peut-être pas de freiner nécessairement la croissance, mais de prendre un pas de recul puis de grandir plus organiquement que d'y aller trop vite parce que on se brûle.
On se brûle, puis il y a un coup d'opportunité. Hein. Si on dit oui à quelque chose, automatiquement, ça veut dire qu'on va dire non à une autre chose.
Exact.
Et le non qu'on a dit à un autre projet était peut-être bien meilleur que le projet dans lequel on a dit oui. Donc, il y a cet environnement-là dans lequel on doit naviguer continuellement quand on a à prendre des décisions pour notre organisation. Et effectivement, j'imagine que d'avoir quelqu'un qui l'a fait pendant plusieurs années, ça doit t'aider des fois à te ramener à l'ordre, ramener à l'ordre un peu, à savoir est-ce que ça fait partie du plan stratégique? Oui, parfait, on le fait. Si ça fait pas partie du plan stratégique, on met ça dans le coffre à outils et on ira regarder ça peut-être dans 6 mois, 1 an, mais pour le moment, ce n'est pas essentiel à la croissance de l'entreprise.
Exact, tout à fait. C'est pas dans le plan, on attend. Puis, je voulais juste dire quelque chose. Moi, aussi, j'ai beaucoup appris dans les dernières années à ne pas dire oui si à l'intérieur de moi c'est nous oui. Donc c'est oui. Le oui là, c'est jamais bon en entrepreneuriat, en business.
Ouais. Non, effectivement, t'es mieux de prendre le temps d'être certain d'être convaincu par le projet avant de foncer la tête baissée. Un autre point que j'aimerais discuter avec toi, Maxime. vente en ligne, c'est très fort de votre côté. Vous avez été capable d'évoluer de manière grandiose à travers le temps, mais force est d'admettre que les derniers mois et peut-être même la dernière année a démontré que de plus en plus, si on est capable d'embrasser le volet des ventes hors ligne, donc des ventes en magasin et également par la suite des ventes en ligne, on risque de pouvoir obtenir une meilleure croissance. Du moins, c'est ce qu'on a été capable de voir. Le consommateur veut retourner en magasin, veut aller acheter ses produits à différents endroits, pas simplement devant son ordinateur. Quelle est votre vision de votre côté chez Rose Bouddha par rapport à des ventes en magasin, avoir des points de vente spécifiques? Est-ce que ça fait partie de ce fameux plan stratégique?
Oui, 100%, ça fait partie du plan stratégique. On veut pas aller trop vite, mais on veut le faire. On va commencer avec des pop-up, donc des pop-up shops, qui vont être là pendant plus boutiques éphémères que pop-up shop. Ouais. Puis on va tester des secteurs, voir où les gens sont les plus présents, où il y a vraiment une demande. Puis l'erreur, je pense, qu'il ne faut pas faire, c'est de résister aussi au courant.
Bien sûr.
Alors, tu sais, pendant un bout de temps, on s'est dit non, nous, on va rester en ligne, on veut rien savoir d'avoir un magasin physique. Mais là, on voit qu'il y a des grands courants au niveau du retour en boutique, en magasin, de la clientèle. Alors, on saute aussi dans le courant. On va pas résister à ce courant-là. Alors, comment nous, on peut le faire avec notre organisation? On a pris des décisions par rapport à ça. Puis, c'est quelque chose qu'on va essayer 100%. Puis, t'sais, moi, je le vois vraiment comme un soleil. Rose Bouddha, il y a le centre qui est les valeurs, les gens, notre monde. Mais il y a la vente en ligne est un rayon de ce soleil-là. Les boutiques peuvent être un autre rayon. Tu sais, je pense que dans le contexte économique actuel, faut protéger les liquidités de l'entreprise au maximum parce qu'on sait pas ce qui va arriver. Donc, de protéger notre cash flow, veut pas. Mais de diversifier peut-être nos sources de revenus est une décision peut-être probablement sensée, là.
Et ça serait quoi l'échéancier à travers tout ça?
L'échéancier, pour une boutique éphémère, on a visé l'automne.
Ah, quand même.
Oui, à voir si justement ça va se faire cet automne, mais on avait visé l'automne et ouais, il y a pas de « et », c'est pas mal ça. Puis on retravaille l'application de méditation avec un relancement de l'application aussi pour cet automne. Fait qu'il y aurait là un beau mariage entre les deux. Puis on commence à sortir aussi des produits maison, c'est un petit scoop que je peux donner. On va avoir des produits maison, éco-responsables, éthiques, toujours en lien avec le bien-être. Donc, se créer notre petit sanctuaire, notre espace dans lequel on est bien avec des beaux produits, là, de la couverture, du coussin, des affaires, tu sais, très cocooning.
Et là, on est capable de le voir. Vous avez l'application qui va être lancée à l'automne. Vous pensez à des magasins qui vont peut-être être des magasins éphémères, mais tout de même, vous pensez à vous intégrer davantage dans le volet hors ligne. Vous avez des nouveaux produits qui arrivent. Est-ce qu'il y aurait d'autres choses qui seraient importantes de savoir sur le futur de l'organisation, peut-être dans un environnement de 6 à 18 mois? Est-ce qu'il y a une ouverture, une croissance, peut-être même dans des endroits différents dans lesquels vous êtes présentement, que vous aimeriez faire?
Mais c'est sûr que de continuer à grandir notre marché, ça fait partie des stratégies. Donc, rejoindre plus le reste du Canada, parce qu'on était très centré au Québec, puis c'est pas par manque de volonté d'aller à l'extérieur du Québec, c'est que on a tellement été sold out beaucoup qu'à chaque fois qu'on s'apprêtait à sortir du Québec, aller rejoindre le reste du Canada ou peut-être même les États-Unis, ce qui se passait, c'est qu'on n'avait plus de produits. Puis là, on est beaucoup plus solide et on se sent vraiment prête là à aller à l'extérieur du Québec et rejoindre une nouvelle clientèle à cet endroit-là. Fait que dans les 6 prochains mois, je te dirais qu'on va faire une offensive là pour aller rejoindre là davantage la communauté anglophone dans le reste du Canada.
Je terminerai, Maxime, avec des petites questions personnelles. J'aime toujours savoir ce que mes invités lisent ou écoutent quand ils sont en train d'être de marcher vers le travail ou même d'être en voiture. Est-ce que tu aimes les lectures d'affaires? Et si oui, qu'est-ce qui aurait marqué ton imaginaire qu'on pourrait partager avec l'audience?
Ben, j'aime les lectures d'affaires, oui. Et j'ai ressorti, il y a quelques semaines, un de mes livres préférés, c'est « Let my people go surfing » de Yvon Chouinard.
Ben oui.
C'est un classique. Il est sur ma table de chevet. Puis là, j'ouvre des pages. Puis là, je suis tombée sur quelque chose cette semaine. Justement, sur la croissance. Puis ce qu'ils ont fait, eux, à une époque où les choses... où ils avaient grandi très, très rapidement. Puis il y avait un peu une crise économique. Puis je trouvais tellement que ça s'appliquait à aujourd'hui que j'envoyais des photos aux membres de mon équipe. Fait que ça, pour moi, c'est un livre qui m'accompagne tout le temps. Je le feuillette comme ça régulièrement. Il y a... Do less, c'est pas nécessairement, ça s'applique pas juste aux affaires, ça s'applique pas mal à tout le monde qui a envie un peu d'en faire moins, de Kate Northrup. Donc c'est fait en fait ce qui te rapporte quand tu es en affaires en fait ou travailleur autonome, qu'est-ce qui te rapporte des revenus? Arrête de faire ce qui te rapporte pas puis délègue et fais finalement ce qui va te rapporter. C'est simple, c'est bien raconté. C'est une petite lecture qui fait du bien, là. Ça fait partie de mes lectures là, dans les derniers mois, je te dirais.
Podcasts, est-ce que tu en écoutes quelques-uns?
Oui, j'écoute des podcasts. Venant du monde de la radio, c'est un média que j'aime beaucoup, beaucoup. J'aime l'audio. J'aime écouter des podcasts en faisant la vaisselle. J'aime écouter des podcasts en auto. J'aime beaucoup Expert on Experts de Armchair Experts. Ils vont interviewer autant Michael Moore que Eric Schmidt, l'ancien CEO de Google, ou des fois, bon, quand c'est Armchair Expert régulier, ils vont interviewer des acteurs, des comédiennes. Mais la série Expert on Experts, ils ont des invités vraiment de grande, grande qualité. Fait que t'as justement autant l'ancien CEO de Google qu'un paléontologue ou Michael Moore, par exemple. J'ai beaucoup aimé The Drop sur la descente d'Elizabeth Holmes. J'imagine que tes auditeurs probablement se sont intéressés à cette histoire-là. Hypercroissance, bien sûr! J'aime bien aussi Brené Brown, qui est classique avec Dare to Lead, qui a toujours des invités super intéressants aussi. C'est rien de très original, mais ça fait partie des bons que j'aime visiter là, régulièrement.
Donc, t'es resté proche de l'environnement audio-radio, là. T'as jamais tellement sorti de cet écosystème-là?
Non, pas tant. ça fait toujours un petit peu partie de moi, oui. Puis je pense que ça va continuer à le faire. Peut-être qu'on pourrait lancer un podcast.
Ah ben là, tu vas voir, là, il va y avoir tes investisseurs qui vont venir te dire est-ce que c'est primordial de le faire à court terme?
C'est ça. Est-ce que c'est une distraction, Maxime? Il y a peut-être d'autres choses à faire, là.
Puis, en tant que routine, est-ce que tu as une routine spécifique avant, pendant et après le travail, Maxime?
J'ai des enfants assez jeunes. Donc, un petit garçon de 3 ans, une petite fille de 7 ans. Fait que, tu sais, la routine là, de l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt, se lever à 5 heures du matin, c'est vraiment pas mon genre. Vraiment pas. J'aime croire que c'est faux, que l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. J'aime croire que l'avenir appartient à ceux qui dorment 8 heures par nuit. Et que, je te dirais, ma routine, c'est, je me lève quelques minutes avant les enfants, je commence à me préparer, mais pas 1 ou 2 heures avant. Puis, je commence à travailler autour de 9 heures et je finis quand les enfants reviennent de l'école, donc à 4 heures. Je travaille très concentrée, mais pour moi, c'est important d'être présente, d'être là. Puis, je me suis pas lancée en affaires pour ne pas voir mes enfants non plus. Alors, d'être mompreneur, donc maman entrepreneur, d'avoir écrit aussi des livres sur le slow living, c'est faux. Il faut que, en tant qu'entrepreneur qui parle de ces sujets-là, je pratique ce que je prêche, ce que je raconte. Alors, oui, d'avoir un horaire très structuré dans ce sens-là, des heures de travail fixes et de déborder le moins possible le soir est très, très important pour moi. Alors, je te dirais que c'est ça, moi, ma routine. Puis d'essayer de faire un petit quelque chose pour moi à tous les jours, que ce soit de m'arrêter 10 minutes, de prendre un café, d'aller marcher dehors, que ce soit d'aller faire un cours de yoga, d'écouter justement un podcast, peut-être en dînant, de prendre au moins un moment à tous les jours pour faire quelque chose qui me nourrit, qui me fait sourire, qui me sort de mon travail quotidien.
Fascinant. Maxime, si on veut en apprendre un peu plus sur Rose Bouddha, c'est quel endroit qui est le plus facile pour vous retrouver, pour rentrer en contact avec vous?
C'est sur le site de Rose Bouddha, rosebouddha.com. Et Bouddha s'écrit B-U-D-D-H-A. Donc, R-O-S-E-B-U-D-D-H-A. Et si vous voulez nous écrire, vous nous écrivez à service@myrosebouddha.com. On va être bien content de vous lire, on va être bien content de vous répondre aussi.
Fantastique, on va mettre des liens dans les notes de l'épisode. Maxime Morin, merci beaucoup d'avoir pris le temps aujourd'hui avec nous. Une très belle entreprise que toi et ta partenaire, vous avez construite à travers les années. Félicitations pour cette belle croissance. Félicitations également pour les initiatives environnementales que vous avez prises, et ça dès le départ. Donc, vous n'êtes pas tombé dans la vague que tout le monde est tombé dans les derniers mois, dans les dernières années. Ça fait partie de votre raison d'être. Donc, vous avez toute mon admiration à ce niveau. Et bien, pour les gens qui nous écoutent, on se dit à bientôt pour un prochain épisode de Hypercroissance. Merci encore d'avoir été avec nous aujourd'hui. Si l'épisode vous a plu, ce serait très apprécié si vous pouviez le partager sur les médias sociaux afin de faire connaître le balado à un maximum de gens d'affaires possible. Également, je vous invite à m'ajouter sur LinkedIn. Comme je vous le dis à chaque semaine, j'adore discuter avec vous. Et plus souvent qu'autrement, vous me donnez de superbes idées d'invités pour le podcast. Sur ce, on se dit à bientôt pour un prochain épisode de Hypercroissance.